passionné par Christ. Quelques pensées finales, tout simplement, pour cette marche avec le Seigneur, pour ce quotidien avec lui. J'aimerais juste partager quelques pensées encore sur la deuxième grande partie de l'épître de Paul aux Romains. Dans sa première grande partie, il insiste sur le fait de la rédemption, le salut, la gravité du péché, la grandeur du Sauveur, pour nous introduire après dans la partie où il parle du peuple d'Israël, chapitre 9 à 11, et puis pour donner sa deuxième grande partie de l'épître, des applications pratiques à partir du chapitre 12. Et j'aimerais simplement de ce chapitre encore sortir quelques petits points qui me sont précieux. Pourquoi précieux? Parce que, tout simplement, expérimentés comme valeur dans la marche quotidienne et comme aide dans le cheminement de tous les jours. Au chapitre 12, vous connaissez certainement Romains 12, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, les sœurs aussi, hein, c'est pas marqué, mais c'est quand même vrai. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » T'es d'accord, c'est raisonnable de donner son corps à Dieu? T'es d'accord? Donc, c'est le fait que ma respiration, je ne l'ai pas, hein? Elle n'est pas à moi, la respiration. Tu t'en rappelles? Quand tu as vu naître les enfants, tu attendais avec impatience, à l'accouchement, un cri qui permettait de savoir « il respire » ou « elle respire ». C'était l'heure de Dieu, du roi, de donner la respiration, le souffle à cet enfant. Et ce souffle vient de Dieu. Et ce souffle, c'est Dieu qui va l'enlever comme un novice, c'est lui qui décide le moment. Donc, le corps de chaque être humain, puisque chaque être humain est créature de Dieu, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai jamais rencontré un humain qui est un produit de l'évolution. Tiens, c'est marrant, j'ai jamais rencontré ça. J'ai toujours rencontré des créatures de Dieu, donc chacun qui est créature de Dieu et qui respire, c'est la preuve qu'il l'est, il respire. Est déjà à Dieu en tant que lui le créateur. Et toi, dans une décision personnelle, tu lui donnes ce qui lui appartient. Tu vois le geste? C'est ça le culte agréable. Donner à Dieu ce qui lui appartient, c'est lui dire en d'autres termes, « Seigneur, ce qui est à toi, je veux que ce soit à toi. » Ok? Ce qui est à toi, je veux que ce soit à toi. Ça, c'est le même principe que lorsque l'Écriture nous dit, « Vous êtes saints, soyez saints. » C'est-à-dire, vous êtes mis à part pour Dieu. Alors, réponse de l'humain, je veux être mis à part pour Dieu. J'ai reçu la respiration, réponse, Seigneur, je te donne cette respiration. Je veux respirer pour toi. Tu m'as donné un corps, Seigneur, il est à toi, mais je te le donne. Ça peut vraiment aider, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Aussi dans les maladies, de pouvoir prier, dire « Seigneur, t'as remarqué, ton corps a mal. » Parce qu'il est à lui, hein. Je ne sais pas si tu sais, il est à lui. T'as remarqué, Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Tu m'aides comme ça ou je vais chez le médecin? Comment je fais, Seigneur? Et alors, quelquefois, chez le médecin, etc. Ok. Mais c'est toi, Seigneur, le corps, je te l'ai donné. Maintenant, il t'appartient. Et comme il t'appartient, je veux qu'il soit à toi. Et ça me permet dans mon être, et toi aussi dans ton être, de vivre avec une certaine distance par rapport à ce qui pourrait te chagriner tellement, tout ce qui se passe dans ton corps. Mais de pouvoir réaliser, je lui ai consciemment donné ce qui est à lui. Et maintenant, je peux lui en parler, je te l'ai donné, Seigneur. Conduis-moi pour que ce corps soit vraiment celui qui te glorifie et que nous puissions ensemble, toi et moi, atteindre l'objectif que tu veux. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera votre part, de votre part, un culte raisonnable. C'est donc raisonnable de donner consciemment à Dieu ce qui lui appartient. C'est pour ça que Jésus peut dire qu'on doit regarder les oiseaux qui ne se soucient pas, qui font confiance au Créateur. C'est pour ça qu'il nous dit que si vous êtes fatigués, venez, je prends soin de vous. Simplement parce qu'il veut nous dire, mais sois d'accord de tout me donner, parce que tout m'appartient, mais donne-le-moi. Sois-en conscient que moi, ça m'appartient, dirait Dieu. Le texte continue, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La nouvelle intelligence que te donne le Saint-Esprit au travers de l'Écriture, c'est justement cette intelligence de ne pas avoir besoin, tu n'es pas obligé de vivre comme le monde vit. Ça, tu as une grande liberté. Tu n'es pas obligé simplement de vivre comme le monde vit. Paul le dira encore d'une façon beaucoup plus concrète dans Éphésiens au chapitre 4, où il dit de le réaliser, ne vivez pas comme le monde le vit. Vous n'êtes pas obligé. Quelquefois, on a l'impression que les chrétiens sont presque obligés de faire comme tout le monde. Mais non, tu n'es pas obligé. Tu ne vis pas en opposition. Tu n'es pas contre. Ton évangile n'est pas contre quelque chose. Ton évangile est pour Christ. Donc, tu vis avec une liberté pour faire le bien. Tu ne vis pas dans une concentration contre le mal. Sinon, tu deviens un guerrier qui voit du mal partout et tu vas te décourager. Ta vie est orientée vers le bien. Ta vie, tu l'as donnée dans les bras de Dieu. C'est le culte agréable et raisonnable. Et maintenant, tu sais, je lui appartiens. Je peux vivre selon ce que l'Écriture me demande. Je peux vivre en liberté et faire le bien. Je trouve que c'est la grande liberté des enfants de Dieu. Elle est bien décrite dans l'Épître aux Galates. Nous avons, au travers de Jésus, la liberté d'être en communion directe avec Dieu le Père. Imagine ça, il faut juste un peu se l'imaginer. Hein. Si je veux voir le président de la République, en tant que chez nous en France, il se dit, oh là, c'est une démêlée, hein. Tu ne peux pas y aller simplement vite à l'Élysée, dire, bonjour monsieur, j'arrive, j'ai quelque chose à vous dire. D'abord, il y a tous les CRS qui t'attendent et tout, enfin, il faut faire attention. Hein. Puis les papiers, les tout, enfin, il y a plein de trucs. Et là, tu as la liberté d'être en relation avec Dieu le Père, parce qu'il y a Jésus qui est ton avocat. Tu vois, moi je dis souvent, c'est quand même merveilleux, hein, on a tous un avocat et on ne l'a jamais payé. On va chercher ça dans le monde, hein, tu ne trouveras pas. Hein. On a deux avocats. On a Jésus qui nous défend parce que quelquefois, je m'imagine, hein, quelquefois au ciel, comme du temps de Job, quelquefois au ciel, il y a Dieu qui fait une réunion, peut-être un conseil d'administration, je ne sais pas, je n'étais pas là-haut, mais il fait une réunion, et puis il y a Satan aussi qui se promène, et puis Satan dit, t'as vu Daniel là en bas? Ben s'il n'y avait pas eu les anges au croisement là, il se s'est shooté avec sa bagnole, il roule comme un fou. Et Jésus prend la défense dans le monde invisible. Parce qu'il va dire simplement, Daniel, il est à moi, ça ne te regarde pas là. T'occupes de quoi toi? Daniel, il est à moi, je m'en occupe. Et puis j'ai un deuxième avocat, le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, c'est l'avocat qui défend Dieu dans ma vie. Quand moi je pêche, cet avocat devient celui qui défend Dieu et qui dit « Hé, Dani, ça c'est pas correct !» Quand tu pêches, tu ressens que tu n'es plus bien si tu es enfant de Dieu. Tu le ressens. À l'intérieur de ton être, c'est le Saint-Esprit. Quelquefois, c'est comme un petit resserrement quelque part où tu deviens nerveux, quoi. Parce que ta conscience n'est plus tranquille. Elle n'est plus tranquille. Et ce que Jésus veut pour toi en tant que disciple, c'est une vie paisible. Paisible. Avec le calme à l'intérieur. Le calme à l'intérieur. Et quand le Saint-Esprit dévoile le péché, il le fait pour que je demande pardon. Et il le fera, et là il peut être insistant, franchement. Je connais son côté insistant, que si je tiens tête, mais il peut me permettre des nuits blanches là. Alors là, il ne fait pas attention au truc. Parce qu'il m'aime, comme il t'aime toi. Et c'est pour ça qu'il dit au verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » La nouvelle intelligence que tu es, que tu as, c'est cette intelligence qui peut comprendre que tu as une nouvelle vie et que tu as une vie, en fin de compte, éternelle, sous le contrôle de Dieu. Je me dis souvent, c'est ce que doivent avoir tous nos bien-aimés, dans les pays où ils sont persécutés, où ils sont battus, où certains sont crucifiés, où ils sont maltraités. Dieu doit leur donner une part particulière de cette conscience de la vie éternelle et de rien qui pourra les arracher de l'amour de Dieu, comme Paul le précise dans Romains 8, que rien ne pourra les ôter de la main de Dieu. Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. J'aimerais t'encourager encore de rechercher la volonté de Dieu. Elle est très souvent difficile à trouver. Ce n'est pas un chemin facile. Parce que la volonté de Dieu, pour la trouver, ce n'est pas tout que j'ai la volonté de Dieu. C'est inclus dans toute cette attitude. Tu t'es remis à Dieu. Tu es d'accord de vivre selon ses principes et Dieu veut te conduire. Et quand il conduit, c'est un peu des changements de direction dans ta vie. Ça se passe un peu comme chez les trains. Un train ne peut pas changer de direction sans rouler. Tu n'as pas besoin de rester à l'arrêt et d'attendre que Dieu enfin te montre quelque chose. Tu vis dans cet amour, dans ces principes spirituels, dans ce service. Tu continues, tu continues, tu continues. Et il te montrera le changement de direction. Il ouvrira le chemin quand il le faudra. Parce qu'il t'aime et parce qu'il a des œuvres préparées d'avance pour que tu les accomplisses. Quel privilège! Elles sont préparées d'avance pour y entrer. Et je termine, ça va? Avec le texte dans Tite au chapitre 2. Parce que tu sais que tu vis de la grâce, tu sais ce que c'est la grâce. La grâce, c'est... C'est quoi? Excellent. La faveur imméritée. C'est merveilleux, hein? On peut être complètement baba, quoi, se dire, mais c'est pas possible. Peut-on avoir tant de faveurs imméritées? C'est gênant. On aimerait un peu répondre et ramener un gros cadeau. Et, enfin, c'est pas moi, hein? C'est un peu gênant. Mais la grâce, ce n'est pas seulement la grâce quand tu as demandé pardon et que tu es nouveau dans la paix et que tu es pardonné. Mais la grâce, c'est aussi un enseignement. Et je lis au chapitre 2 de l'épître à Tite, que Paul a écrite aussi, au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, Donc elle nous enseigne la grâce à renoncer à certaines choses pour vivre selon la sagesse du Seigneur dans la société où on est. Donc c'est un enseignement, la grâce en soi, le cadeau de Dieu, ce qu'on n'a pas mérité, les bénédictions de Dieu sont en même temps un enseignement. Quand tu es protégé, quand tu es béni, quand tu as la paix que tu as reçue au travers du sang de Jésus, du pardon que tu as reçu, cette paix profonde que tu as reçue, tout ce que tu as reçu et qui te rend tellement heureux, t'enseigne à vivre une autre vie, à progresser dans la vie. Elle t'enseigne à renoncer à certaines choses pour pouvoir vivre la piété. La piété, c'est quoi? C'est pas un pieu, non? Mais les pieux sont là, oui, ceux qui pratiquent la piété sont des pieux. Mais bon, on les enfonce pas ceux-là, hein, c'est un autre truc. Non, la piété, c'est la mise en œuvre, c'est l'application de la foi. Hein? Application. Une application de la foi, la piété. Et donc, elle nous enseigne à appliquer la foi. Et j'aimerais t'encourager. T'encourager pour te dire que chaque application dans ta vie spirituelle apporte en fin de compte sur ton chemin un bonheur que tu ne peux pas mesurer avant, mais que tu mesures à long terme. Parce que chaque pas d'obéissance, c'est comme dans la vie, comme si le Seigneur, à chaque pas d'obéissance, se dévoilait un peu plus à tes yeux dans l'intimité. Ralph Schalis a dit ça d'une façon très bien. Il disait, chaque fois que je lis l'Écriture et que je l'applique, c'est comme s'il y avait dans la vision de Jésus, c'est comme s'il y avait un tas de vitres translucides qui ne sont pas entièrement transparentes, et que chaque fois que j'obéis, il y a une vitre qui sent une de plus, qui s'enlève, les translucides. Et j'aperçois de mieux en mieux qui est Jésus. C'est au travers de l'obéissance que vient la vision juste de celui qui est ton Sauveur et ton Seigneur. Et là, je remarque qu'il n'y a pas de raccourci. Si quelqu'un n'obéit pas et veut bien connaître le Seigneur, malheureusement ou heureusement, il faut lui dire « Attends, obéis d'abord. » J'étais invité dans une église, mais ce n'est pas négatif d'être invité, hein, mais j'étais invité dans une église où je ne pouvais pas parler grand-chose parce qu'à chaque demi-phrase, le peuple criait. Alors, je ne sais pas. Alors, à un certain moment, j'ai dû leur dire « On va faire comme à l'école, soit c'est vous qui parlez ou ça c'est moi. Hein, » donc, après, on s'en est un peu sorti. Mais à la fin, j'ai dû leur dire quelque chose quand même. Ils criaient pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est bien. Mais j'ai quand même dû leur dire, d'en haut, Jésus vous dit, mais c'est simple, obéissez. Obéissez, et moi, Dieu, je m'occupe des bénédictions. Chacun sa branche. Vous obéissez, et lui bénit. Je pense que c'est tellement utile. Les tout petits pas d'obéissance que tu fais dans le quotidien, Dieu y répond par la bénédiction. Bénédiction que tu ne peux pas toujours mesurer, que tu ne sais pas dans quel domaine, mais où à long terme, tu réalises, tu connais de mieux en mieux Jésus. Il est de plus en plus proche de toi. Tu deviens de plus en plus amoureux de lui. Et tu te décolles de la terre parce que tu te réjouis tellement pour le ciel. Et c'est tellement bon. L'Évangile a une très, très grande simplicité. Mais c'est une question de relation. Relation avec Dieu, relation avec les humains. C'est relationnel. Encore une fois, merci pour votre attention. Et je vais encore prier. Tu es là, Seigneur, et tu as entendu. Je te remercie que tu permets que dans chacun des cœurs demeure ce qui est utile pour chacun, tout simplement parce que tu sais très bien toujours en faire le tri. Tu effaces aussi tout ce qui était inutile. Mais je te remercie que tu as le bien-aimé et que tu es vraiment le trésor, Jésus. Nul ne pourra jamais comprendre la grandeur de ton amour. Et tu aimes ton Église. Et tu la fortifies jour et nuit. Et tu sais que ton Église vit dans une bataille spirituelle. Et tu sais comment la réconforter, comment la garder. Seigneur, remplis-nous tous de cet amour dont nous avons besoin pour vivre dans un monde qui a transformé les valeurs, qui te connaît si mal. Et soutiens-nous, en chacun d'entre nous, pour être des témoins sur le chemin de cette humanité. Merci, parce que c'est toi qui as aussi dans ta main tous les responsables d'Église. Fortifie-les, Jésus. Garde-les en toi, renouvelle leur force. Renouvelle quotidiennement leur vision. Que ta beauté puisse transparaître et que ta force soit présente. Te prie spécialement aussi de bénir tous les enfants. Que tous ces petits, Seigneur, qui sont dans les églises, puissent devenir tes disciples. Que aucun d'eux ne se perde, Jésus. C'est toi qui appelles, c'est toi qui sauves, c'est toi qui délivres. Jésus, glorifie ton nom, pour la gloire de ton nom. Amen.